Bonjour à tous, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième session des grands témoins de SIG 2023. Je suis en compagnie de Christophe Touré. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et de Laurence De Villers. Bonjour, bonjour. Laurence. Bienvenue sur ce plateau. Alors, le plateau va être une interaction entre ici, notre plateau à Meudon, et les personnes qui sont à distance. Et Christophe, je vous propose en fait d'expliquer le principe de l'émission pour ceux qui nous rejoignent.
Tout à fait. Donc, le principe, c'est d'échanger avec notre invité. Et vous pouvez, je regarde cette caméra-là, vous pouvez nous poser les questions que vous voulez dans le chat de la session. Moi, j'ai devant moi sur mon téléphone. Je me ferai votre relais auprès de Laurence. Dans l'onglet discussion ou dans l'onglet questions, je surveillerai les deux. Un petit conseil, posez bien des questions qui résonnent par rapport au sujet de discussion en cours. Ça m'aide à insérer la question dans la discussion. Si les questions sont très générales ou très déconnectées, j'ai un peu plus de mal et malheureusement, je ne les prendrai pas forcément. Donc, ce serait dommage. Voilà, et puis n'hésitez pas, allez-y, posez plein de questions, c'est fait pour ça.
Dès maintenant, à Laurence De Villers. Alors, Laurence, en fait, vous êtes professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne Université. Vous êtes également chercheur au CNRS, au LIMSI, qui est le laboratoire d'ingénieurs pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Vous y dirigez, en fait, notamment une équipe de recherche sur les dimensions affectives et sociales, les interactions avec, entre les hommes et les robots. On en parlera un petit peu plus en avant. Vous êtes également particulièrement engagé dans les réflexions menées sur l'éthique de la recherche en sciences et en technologie du numérique. Déjà, pourquoi cet intérêt en fait pour cette thématique très très large qui prend le dessus à l'heure actuelle de l'intelligence artificielle ?
Pourquoi je me suis intéressée à l'éthique ? Tout simplement parce que depuis les années 2000, alors qu'avant j'avais travaillé sur le traitement automatique de la langue pour faire de la reconnaissance de la parole ou pour travailler sur des systèmes de dialogue, je me suis intéressée à partir de 2000 à la détection d'émotions dans la voix. Alors pourquoi ? Parce que j'avais eu des données à traiter et les gens disaient à la machine « t'as compris !» et la machine comprenait encore moins avec colère dans la voix, avec de la colère dans la voix. Et donc ça me paraissait assez intéressant d'aller travailler sur la musique de la voix pour comprendre l'état affectif de la personne et pouvoir mieux lui répondre. Donc, mais ce sujet affective computing, qui était né au MIT en 1997, était un sujet assez nouveau. Et donc, j'ai passé le reste de mon temps à ça. Et pourquoi j'arrive à l'éthique ? Parce que en 2016, après de nombreux travaux, on en parle de plus en plus, mais bien avant 2016, j'étais déjà impliquée dans des comités d'éthique, parce que détecter les émotions de quelqu'un, même si c'est pas très robuste, un peu faux de temps en temps, ça peut avoir une incidence très forte de manipulation. Et c'est là-dessus que je suis maintenant en train de travailler.
En train de travailler. Alors, au démarrage, en fait, vous travaillez sur les robots. Vous avez d'ailleurs édité, parmi toutes vos activités, en fait, édité différents ouvrages. Les premiers étaient sur les robots émotionnels, les robots pour les hommes, mais en même temps, en fait, en intégrant toutes les dimensions sociales, affectives, etc. Là aussi, en fait, les robots, une interface créée par des hommes pour des hommes, mais finalement, en fait, qui ne sont pas forcément des hommes.
Dans l'intérêt de travailler sur les robots, parce que je ne suis pas roboticienne, je les fais parler ou essayer d'interpréter le langage des humains ou leur comportement devant eux, c'est qu'effectivement, il y a un fantasme sur ces machines. Donc d'abord, pour avoir de la parole spontanée dans un cadre d'interaction avec des humains, c'est un autre cadre, avec des machines, ça donne une autre complexité. Et il y a une espèce de rapport à l'autorité, si vous voulez. Quand un système automatique où vous allez surfer sur Internet, vous trouvez des réponses, ou ChatGPT vous dit quelque chose, vous avez tendance à le croire. Or, c'est ça que je veux démystifier. La machine calcule, elle ne pense pas. Et donc, cette interaction avec les robots est d'autant plus importante à mieux maîtriser, parce que ces systèmes vont nous faire évoluer, sans doute. Alors, il y a des très bonnes pratiques, il y a beaucoup de choses extraordinaires qu'on peut faire, mais pour l'éducation, pour l'assistance au grand âge, pour tout un tas d'objectifs dans la société qui sont sûrement très bien, il est nécessaire d'avoir des règles éthiques, en tout cas, et de vérifier ce qui se passe.
Comment est-ce qu'on bascule après dans votre réflexion ? Je continue votre idée de chercheuse et d'accompagnement. Vous avez créé une chaire maintenant aussi sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on passe de l'application du cognitif, en fait, du côté de robot, à l'intelligence artificielle ? C'est une logique globale ?
Mais en fait, je fais de l'intelligence artificielle depuis mes débuts. C'est ça qui était peut-être pas très connu pour le grand public. C'est nouveau. Et en fait, dans les laboratoires, on fait de l'IA depuis les années, on en parle depuis les années 50. Alors, c'est un énorme champ d'activité avec beaucoup de sciences différentes. Au début, c'était des règles d'experts faites par des humains. Maintenant, c'est plutôt à partir de données qu'on arrive effectivement à créer des systèmes intelligents. Alors, ils ne sont pas intelligents, ça faut bien comprendre. Ce sont des systèmes qui, à partir de données, à partir des régularités statistiques que l'on a dans les données, même à partir de milliards de données, et pour autant, qui sont capables de vous répondre à la manière d'un humain, en imitant donc la façon dont ils s'expriment. Donc, il faut vraiment démystifier ces objets, parce que le langage, c'est ce qui porte notre culture, nos émotions, le partage dans la société, la concrétisation de l'intelligence, c'est par cette négociation orale. Or, ces systèmes en sont tout à fait dénués. Si je parle de ChatGPT, par exemple, il a pas il ne fait que produire des statistiques, des probabilités, et on a une phrase probable qui sort, mais aucune vérification de la véracité des propos. Il a perdu les sources parce que c'est une sorte de puzzle de langage, et on ne peut pas faire confiance comme cela à ces systèmes. Donc, il est nécessaire d'apprendre les usages de ces objets, et je crois que dans la société, on manque d'apprentissage sur l'usage de ces objets, c'est-à-dire comprendre bien à quel point ils sont nécessaires, utiles et économiquement intéressants, et en même temps, comment ils peuvent nous amener à dévier et à décider à notre place.
Alors, donc, donc, on a à l'origine, je fais très schématique, à l'origine, on a une tentative de rassembler de l'information d'autorité, mettons, avec Wikipédia sur le web. ChatGPT va digérer cette information et la restituer dans un langage beaucoup plus convaincant, à la limite, ou naturel, assertif, c'est le terme, etc. Exactement. Mais on perd quelque part l'autorité de la donnée d'origine.
Exactement, on perd les sources.
On perd les sources.
Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Et lorsqu'on demande à ChatGPT de nous donner des sources, il en invente. Donc, on a besoin de bien comprendre les limites de ces technologies et toute la force aussi, le pouvoir de, finalement, ces énormes modèles qu'on appelle les modèles de fondation, qui travaillent sur les images comme sur le texte ou comme sur l'audio ou d'autres signaux, et qui ont sûrement des intérêts notables pour nous. Parce que la machine voit très différemment de nous. Donc, on a l'IA qui était cette énorme discipline. À l'intérieur, on a ce qu'on appelle l'apprentissage machine, qui sont ces systèmes qu'on ne sait pas programmer comme ça. C'est-à-dire qu'un ingénieur est capable de dire, je pars de ce signal et j'arrive à ceci. Je le fais grâce au fait que j'ai utilisé plein de données et j'ai un algorithme qui permet de trouver donc les points forts, les signaux statistiquement présent pour en générer une décision ou générer des choses qui sont proches. Mais on est devant une boîte noire, on ne sait pas expliquer, ce n'est pas transparent. Et à l'intérieur de ça, ce qu'on a fait récemment en 2017, c'est ces transformeurs qui sont avant tout des super systèmes qui amalgament beaucoup plus de données et qui parallélisent en fait encore mieux les calculs matriciels qui sont faits derrière. Et donc la puissance de ces objets sont vraiment quelque chose de nouveau, surtout qu'à partir de la possibilité de générer des données. On peut générer des données artificielles. Alors, c'est très utile pour la santé, c'est très utile pour l'écologie, cela peut être moins utile dans d'autres secteurs. Donc, c'est là où il faut réglementer et comprendre ce qu'on est en train de faire. Des données synthétiques, ce n'est pas la même chose que des données naturelles. Ce n'est pas des données bio, mais elles peuvent être intéressantes parce qu'on a des trous dans la raquette, la météo, on ne sait pas faire tout le temps, ou d'autres objectifs. Mais en même temps, si je fais ça sur des opinions humaines, qu'est-ce que je suis en train de faire sur la réalité ?
Ça résonne très bien avec nos champs d'application, nos utilisateurs qui sont derrière leur écran en ce moment même, ils cartographient le monde en fait, ils mesurent le monde, ils le cartographient, le monde réel, le vrai en fait. Voilà. Mais il y a aussi un champ maintenant dans nos métiers de la génération de données géographiques synthétiques,
bien sûr,
à des fins de simulation de phénomènes sur le territoire, dans la dimension géographique, sur des données simulées ou construite à partir d'IA, effectivement. Donc une végétation, couverture d'occupation du sol, une végétation, une ville générée par une IA pour, à des fins de simulation, mais aussi d'entraînement.
Oui,
on peut
sûr.
Imaginer les contextes militaires et autres autour de tout ça.
Donc c'est là où il faut se poser des questions quand même, de qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'on modélise un fait à partir de données exclusivement synthétiques ?
Oui.
Est-ce qu'on est sur une réalité de terrain ? Comment on contrôle cette réalité de terrain? Je pense que c'est des questions, comme je me les suis posées, moi, sur les dimensions affectives, qui sont essentielles dans les métiers. Plus on apprend et plus on a ces systèmes devant nous, plus on doit comprendre les différences entre ce que font les humains ou ce qu'est la nature qui nous environne et l'artificiel. S'en servir à bon escient. Alors, je montre souvent des photos de... Par exemple, on s'en rend pas compte dans le langage quand ChatGPT nous parle, si c'est approximatif ou pas. On s'en rend mieux compte sur des images, celles qui sont générées par des Stable Diffusion ou autres systèmes qui manipulent très bien les IA génératives sur les images, elles sont capables de générer des choses extrêmement proches, en fait, de ce qu'on pourrait générer. Et on n'arrive pas forcément à distinguer ce qui vient d'un humain ou de ce qui vient d'une IA générative. Donc, il se pose là des questions de est-ce qu'on a besoin de mettre des filigrammes dedans pour certifier que c'est bio ou pas bio? Est-ce que c'est utile ou pas? Et comment on mesure ces différences et comment on apprend, en fait, à... aux employés, à la société en général, à distinguer les deux. Est-ce qu'il y a des problèmes de droits d'auteur aussi? Je ne sais pas comment vous gérez aussi les droits de propriété des images, etc. Bon, ça pose vraiment des questions de droits très importantes et de respect des autres.
Le temps de générer des questions. Alors, il y a beaucoup d'images qui défilent pour nous, pour nos écrans de contrôle. On ne sait pas celles qui sont diffusées encore ou pas. Mais vous évoquiez ce petit jeu qu'on va peut-être faire ensemble, d'aller en fait sur ces différentes vues un petit peu pour détecter le vrai du faux. Donc, un petit peu plus loin en fait dans la présentation, si en régie on m'écoute, d'aller un petit peu plus loin dans la présentation pour retrouver là les trois images qui sont bien mises en comparaison. Voilà, à partir de là, en fait.
Donc là, la question, c'est, il y a deux images générées par des machines, une par un humain, laquelle est-ce? Faites votre choix, puis on vous répond. Donc, le slide suivant répond.
Le slide suivant, d'accord. Donc, on détermine que...
Voilà, donc, alors, pourquoi on peut encore déterminer que c'est... Que c'est fait par un humain, parce que l'écriture est visible et que les IA génératives ont du mal à reconstruire l'écriture. On va regarder les détails des pieds ou des mains aussi, où on a beaucoup parlé des six doigts.
Six doigts ouais,
c'est pas gênant pour une machine d'avoir une main à six doigts. Donc si c'est arrive quelque part, pourquoi pas le générer? Donc il y en a une autre derrière, et je crois qu'il y en a deux autres exemples, des dessins d'enfants. À votre avis, lequel, jouons avec vous, laquelle est fait par un humain?
Christophe,
par un enfant.
Moi je connais la réponse déjà.
À la suite droite, il me semble un peu bizarre. C'est à la suite gauche, allez.
Suite gauche, c'est fait par un humain.
Réponse.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout, parce que les yeux sont très vivants.
Ils sont trop.
Trop vivants. Ça vient d'une photo, c'est pas un dessin. D'accord. Donc là, il y a. Et de l'autre côté, il y a des traits qui ne sont pas terminés. Donc ça montre aussi un dessin d'enfant. Encore une autre, vous voyez, on se fait avoir facilement.
Dernier jeu, peut-être.
Oui.
C'est plus difficile, là, parce qu'on est,
fait par,
on est dans des traits qui sont vraiment
humain,
très précis.
Lequel est fait par des machines?
Christophe.
À droite, l'humain.
À droite?
Ouais.
Réponse,
voilà.
Et bon, ça fait avoir, encore une fois.
Mais c'est très difficile. C'est vraiment une... Et puis, elles ne sont pas prises par hasard aussi, ces photos.
On en parlait hier encore avec Pierre Aski sur le papa en doudoune, exemple. Ouais. Ça posait des questions, notamment pour la géostratégie et pour les fake news, tout simplement, par rapport à cette thématique-là. Ça, en fait, derrière, on parlait d'éthique tout à l'heure. Vous parliez de filigrane. Oui. On parle beaucoup de l'IA Act en ce moment. C'est quoi l'IA Act?
Alors, c'est la loi sur l'IA qui devrait arriver en 2025 et sans doute être mise en œuvre à partir de 2026 et qui porte sur un certain nombre de d'étiquetage des risques. C'est-à-dire qu'on considère que les objets qui embarquent de l'intelligence artificielle peuvent être intolérables. C'est-à-dire qu'on voudrait pas avoir ce genre d'application. Par exemple, détecter les émotions de vos employés. Est-ce que les employés sont d'accord pour ça? En Chine, on peut le faire. Ici, on respecte, en tout cas, le fait que la personne puisse être malheureuse ou pas heureuse dans son travail, mais que ça soit son intimité. Et donc, on va pas aller sur ce champ-là. Mais c'est pas le vrai partout dans le monde. Donc l'AI va dire il y a des choses qu'on ne veut pas, la manipulation subliminale, ce qui est un vrai sujet qui fait partie de ce que je fais dans ma chaire, avec le nudge, c'est-à-dire l'incitation à faire quelque chose à partir de la détection de vos comportements. Donc ça, c'est pas souhaitable. D'autres sont à haut risque. Donc qu'est-ce qui est à haut risque? Là, c'est plus difficile. Donc ce qui va être interdit, il n'y a pas de souci. Après, il faut savoir comment ils vont définir ce qui est vraiment insupportable ou pas. Donc là, il y a une discussion énorme qui est en train de se passer. Dans les hauts risques, il faut mettre en place des normes et une certaine vérification des audits des systèmes, et tout ça met du temps à être mis en œuvre. Donc je dirais qu'il y a un triptyque, la loi, les normes, qu'on méprise un peu en Europe. Moi, je suis impliquée à l'AFNOR sur les normes. Je me rends compte à quel point il y a une guerre des normes. Qui veut des normes ? Les Américains ? Les Chinois ? Et nous, on dit, oh là là, mais on est un pays qui fait que des normes. Mais attention, hein, en ce moment, se joue une guerre économique réelle pour laquelle il serait bien d'être présent sur la normalisation, qui est le fait de dire un système, il va être viable s'il y a telle et telle et telle mesure ou voilà comment on va la construire. Donc, celui qui détient la norme détient finalement un grand champ économique. Et donc ça, c'est important de dire, c'est pas un frein à l'innovation, c'est une façon d'innover en étant sûr qu'on aura la réglementation avec soi.
Et la frontière entre manipulation de sentiments et influence, elle est floue en fait.
Ben oui, elle est floue.
Le nudge, la publicité, dans la publicité,
il y en a partout, du nudge. Dans le cinéma, dans le discours,
dans les médias en général, il y a du nudge. Donc où se trouve la limite entre influence et manipulation ?
Alors, normalement, le nudge, qui est une incitation à faire, n'est pas une manipulation d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie juste l'idée que ce serait bien d'aller dans ce sens-là. Effectivement, nos biais de peer effect ou le fait que la personne, on ait un attachement particulier ou qu'on pense déjà que c'est bon, vont faire qu'on va suivre ces incitations. Maintenant, si elles sont délétères dans le sens où elles sont répétitives auprès de personnes âgées grâce à des assistants robotiques qui vont les encourager à acheter je ne sais quoi pour je ne sais quel sujet, on peut quand même se dire que c'est pas normal qu'on laisse faire du marketing et de la vente à tout va pour n'importe qui. Donc on a besoin de réglementer ça. Et puis le digital, l'IA va amplifier en fait ces phénomènes. Donc l'incitation, elle est multiple, massive. Mmh. Et donc je crois que c'est là aussi, il faut être vigilant. Ouais.
Et ces réflexions qui sont menées d'un point de vue national ou européen ou international, elles auront forcément fait une globalisation ou pas, ou c'est impossible, ça sera impossible de s'entendre avec les Américains et les Chinois sur cette problématique.
Non. En fait, avec les Chinois, c'est plus compliqué. Là, je vais aller à Hong Kong discuter d'IA et d'éthique, d'ailleurs, avec des universitaires et des industriels chinois. C'est important de garder ouvert cette discussion. On a vu quand l'UNESCO s'est emparé de l'IA et de l'éthique, des choses assez peu, comment dire, avec peu d'impact, parce qu'on entendait, il faudrait, il serait souhaitable, etc. Donc, peu d'incidence sur la norme. Et je pense que par contre, avec les États-Unis, il y a quand même beaucoup d'échanges. Et on avait monté, c'est le président Macron ainsi que M. Trudeau, donc, qui était Premier ministre au Canada, avait monté quelque chose qui s'appelle le GEPA ou le PMIA, Partenariat Mondial sur l'IA. J'ai participé, moi, sur le futur du travail pendant 2 ans. Et puis, je suis partie sur d'autres champs. Mais c'est important de voir qu'il y a quand même une conscience des démocraties européennes et autres pour construire. Il y avait l'Inde, il y avait l'Australie, il y avait plein de monde, en fait. Hein. Et donc, c'est important qu'il y ait cette prise en compte. Et puis, travaillant sur les normes, on se rend compte que ce qu'on porte comme bonne idée est récupéré aussi par l'ISO qui dit qu'il faut qu'on s'accorde. Et donc, ça, c'est essentiel. Un accord mondial est bien plus intéressant.
Alors, j'ai des réactions. Hein, j'en profite. Très bien. Ça commence. Déjà, une réaction de Fabrice qui dit « Quelqu'un a dit « L'Amérique invente, la Chine copie et l'Europe régule.
Ouais, » Ce n'est pas le premier à le dire, hein, ça.
Ouais. Donc, mais quelqu'un, quelqu'un a dit. Apparemment, quelqu'un a dit. Quelqu'un d'autre pose la question. Est-on l'Europe en termes de d'IA et de... Non, l'Europe est-elle loin derrière les USA et la Chine en matière d'IA ? C'est la question qui est posée. Voilà.
Je vais vous faire les questions, moi, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu toujours les mêmes. Ouais. Donc, nous ne mettons pas d'argent sur l'intelligence artificielle. Nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont pas conscience du fort pouvoir économique de l'IA. Et donc, on est en retard parce que les décisions ne sont pas prises. Donc, lorsqu'on nous dit, voilà, on a déjà Microsoft ou on a déjà Huawei qui sont là, pourquoi pas utiliser ces services, on donne l'accès au hardware, au software, à des grandes sociétés étrangères. Moi, je tiens à rappeler que lorsqu'on a eu la Covid, on s'est quand même rendu compte de la dépendance qu'on avait pour les médicaments, par exemple, des choses primaires qui étaient de l'aspirine. On n'en avait pas suffisamment ou des doliprane parce qu'ils étaient faits en Chine. Donc, il est quand même important de se rendre compte de la dépendance que nous avons. Alors, lorsqu'on parle de souveraineté et qu'on ne parle pas des fondamentaux hardware ou des déploiements des plateformes et qu'on ne cherche pas à mettre de l'argent sur ces sujets-là, bon, on se gargarise en France pour une levée de fonds de 200 millions. Mmh. Mais ce n'est pas ça, le sujet. Hein. Mmh. On n'en est pas là du tout aux États-Unis. Hein. Mmh. Donc c'est vraiment un sujet de frein, avant tout, de risque sur l'IA. Je pense que les autres pays, un, ils veulent des normes. Deux, ils risquent énormément d'argent. Alors, est-ce qu'ils les risquent à bon escient ou pas? J'ai l'impression que oui. Et nous, on dit, oulala, non, alors faire des normes, oula, on va encore nous dire qu'on fait rien, et on mise pas plus sur l'IA. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je crois qu'on a sous-estimé et qu'on montrera sans doute pas dans le train de l'IA si ça continue. Alors qu'on a une forte présence hein, sur l'aspect technologique, en recherche, on a énormément de gens qui ont des très bonnes capacités et qui vont tous aux États-Unis ou en Chine travailler. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je pense qu'il manque fondamentalement, parmi les gouvernances aujourd'hui dans nos pays, de scientifiques ou alors d'être entourés de scientifiques qui ne sont pas des lobbyistes pour tous les géants du numérique.
Cédric Villani a essayé de faire quelque chose.
Il a essayé, mais voilà, il s'est fait couper l'herbe sous le pied. Je pense qu'il aurait été un excellent... Enfin, c'est un excellent chercheur, je ne sais pas si ce serait un excellent politique, mais en tout cas, il raisonnait pour nous avec un engagement sur l'Europe qui était très fort, que je n'entends pas.
Et pourtant, en fait, votre chaire, celle que vous avez créée, fait partie des 20 qui a été retenue par l'Agence nationale de la recherche et donc a mis sur l'IA... La France mise sur cette... Et il y a d'autres chaires, en fait, qui sont un peu similaires sur ces sujets.
C'est quand vous regardez bien. Et si vous regardez les chaires comme Prairie, elles travaillent avec Facebook ou elles travaillent avec Google, ou etc. Et donc, à chaque fois, on va être, non pas en souveraineté, mais en dépense de neurones et d'intelligence pour ces GAFAM. Hein.
D'accord. Alors, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si elle est hors sujet, mais je la pose, on ne sait jamais. L'empreinte carbone versus l'IA versus son empreinte est-ce tenable?
Bien sûr que cet élément, il doit être pris en compte. Ouais. Mais je dirais que quand on développe en IA, on doit se pencher sur l'empreinte carbone, vous avez raison. On doit se pencher sur l'équilibre dans les métiers aussi. Hein, si on remplace beaucoup d'humains par des machines, est-ce qu'on a la même qualité d'ailleurs de service derrière? Donc qu'est-ce qu'on doit vérifier, normaliser sur ces sujets-là? Et comment on fait pour reclasser les gens qui vont avoir des métiers qui n'existent plus ou des tâches qui sont remplacées? Donc je pense que cette idée de globalisante de voir qu'il faut travailler sur l'économie et en même temps il faut travailler sur les conséquences sociétales pour le travail et en même temps il faut comprendre qu'on gaspille un grand nombre de ressources, hein, ce sont les trois nerfs de la guerre. Mais par là même, il ne faut pas brider l'innovation. Donc, il faut être assez agile pour aller entreprendre du mieux, le mieux qu'on peut le faire. Et en tout cas, je pense qu'on n'a pas à rougir de vivre en Europe, là où on a une idée quand même de conscience sociétale et d'entraide.
Vous avez indiqué ces trois composantes fondamentales. Tout à l'heure, on parlait d'éthique. Et est-ce que l'éthique va brider l'ensemble, finalement, en fait?
Non, l'éthique, c'est avant tout une manière de raisonner. C'est de se dire, dans l'équation, j'ai des risques, donc j'essaie de comprendre comment, de façon agile, je modifie mon système pour avoir un regard sur ces risques. C'est être transparent et pouvoir le mesurer. Ça ne veut pas dire brider. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a compris, en fait, que c'est très important, donc j'ai la loi, les normes, et l'éthique qu'il faut enseigner, d'ailleurs, qui pour moi devrait être enseignée avec les usages de tous ces outils techno en primaire. Sur les grands concepts, sur l'injustice, sur la discrimination, sur le fait que ces machines cherchent à capturer mon attention et me maintiennent comme ça. Moi, je parle de ça dans des capsules d'éthique pour les enfants du troisième cycle, CM1, CM2, et on leur parle de dopamine. On dit, voilà, en face, la machine cherche... Alors, c'est free to play, mais c'est pay to win. On paye pour gagner. On achète des objets pour être plus fort dans un jeu. On est captivé par la machine qui fait tout pour garder notre attention. Et au final, on n'est pas content quand on sort de là. Donc, il y a une espèce d'addiction qui se crée. Et c'est important que les enfants comprennent les mécanismes. Ils avaient tous enregistré, on a fait ça au Havre grâce à Édouard Philippe, sur la tête des géants, j'étais invitée pour parler là-bas d'éthique de l'IA, mais on a fait aussi des tests à l'école en CM1, CM2. À la fin de la session, les enfants avaient tous dans la bouche dopamine. Bon, bah, l'hormone du plaisir. On a compris que pourquoi on n'était pas content quand la maman vient et débranche, c'est parce que quelque part, on joue sur cette capture de nos émotions. Donc je pense que c'est essentiel de parler, de démystifier. ChatGPT, c'est pareil, il y a des hyperparamètres qui sont utilisés dedans, qui nous donnent l'impression que la machine s'adapte à nous. En fait, elle ne s'adapte pas à nous. Il y a un stratagème dans l'historique, il faut en parler. Ce sont des sujets qui, pour moi, nécessitent de former, d'éduquer massivement pour être au niveau et ne pas avoir peur de l'utiliser, cette IA, à bon escient, partout.
Et ça veut dire que les nouvelles générations seront un peu plus capables, en fait, d'appréhender les choses que nous ?
Pas forcément, parce que je ne vois pas arriver dans l'éducation une forte compréhension de ce qu'il faudrait faire. On a dit à un moment donné, il faut les faire coder. Je suis désolée, il ne faut pas que les faire coder. Il faut comprendre les usages et les concepts derrière, de façon simple, et il faut parler d'éthique.
Il y a une question, là. Pensez-vous que l'accès à l'IA doit être contrôlé ? Par exemple, sur l'usage de ChatGPT à des fins scolaires. C'est la question.
Elle doit être accompagnée. Moi, je dis à mes étudiants, par exemple, mes étudiants à l'université à la Sorbonne, évitez de faire votre lettre de motivation avec ChatGPT. Mm-hmm. Ou alors, vous la modifiez grandement. Parce que sinon, tout le monde aura la même. Ça nous envoie le mainstream, c'est-à-dire la pensée majeure. Et en faisant des erreurs. Donc, j'ai fait récemment un article dans Le Monde sur le AI Act et la normalisation. Et il y avait un très bon article d'un professeur d'HEC qui disait « J'avais séparé ma classe, les A et les B. Les A faisaient le sujet sans rien avoir d'informations complémentaires de ChatGPT ou de Google. Et les autres partaient de la réponse de ChatGPT. » Et finalement, il disait, ceux-là ont beaucoup moins bien répondu parce qu'il n'était pas capable de prendre une distance par rapport aux théories qui étaient données par la machine. Ça s'appelle le biais d'ancrage. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que c'est bien et qu'on vous dit avec force que c'est ça qu'il faut suivre, vous allez le suivre. Vous n'allez pas le remettre en question. Et c'est encore cette question d'autorité de la machine. Comme il y a des gens qui vont voir le médecin en disant, le médecin, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, là, Wikipédia, alors c'est quand c'est Wikipédia, on peut se dire que ça a été un peu contrôlé, mais ça peut être n'importe quoi sur la toile qui résonne vers une intuition qu'on a et ça a l'air de conforter ça. Et donc on dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'expertise, la science doit être mise au centre de la cité pour tout le monde, pour le bien de tout le monde, pour comprendre à peu près où on va. Il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, mais il y a des façons, des méthodologies qu'on devrait, en tout cas, enseigner.
Une question pour laquelle vous avez peut-être la réponse, justement.
J'ai pas eu de réponse.
Non, parce que ça rebondit sur ce que vous venez de dire.
D'accord.
Où trouver de la matière pour parler éthique de l'IA auprès de nos enfants ?
Très bien. Alors, voilà. Fondation Blaise Pascal. Je suis la présidente de cette fondation qui fait des activités hors scolaires pour pousser les enfants à faire des mathématiques.
D'accord.
En montrant l'intérêt des maths dans la société, pour l'écologie, pour l'astro, pour plein de sujets qui les captivent. Et puis, on parle aussi d'éthique de l'IA. Et les capsules dont je parle, il y en a au moins deux qui sont sur le site accessible.
Fondation Blaise Pascal.
Elles vont avec une façon d'utiliser pour le professeur. On mesure aussi les effets sur les élèves. Donc, je pense qu'on en a une douzaine qui devraient être faites grâce aux fondateurs. Les fondateurs de la fondation, c'est le CNRS, l'INRIA, les grandes universités. Et puis, il y a des donateurs, comme un grand nombre d'industriels qui nous soutiennent. C'est la Maïf, par exemple, qui nous soutient pour les capsules. Et donc, je pense que c'est important. Ça ne demande pas d'avoir des professeurs spécialisés dans l'informatique. On n'arrivera pas demain à les avoir. Dans une transition agile, c'est mettre le doigt sur... D'abord, c'est très créatif, tous ces métiers. Et puis, voilà un peu les limites. Et on vous donne l'ingrédient qu'il y a dedans. Donc, ils sont très contents, les enfants, en fait. On les prenne pour des grands.
Parmi toutes les questions qui peuvent vous agacer, tellement elles vous sont rabâchées, en fait, à longueur de journée, il y a la toute première dont on entend beaucoup parler depuis le début de l'année, c'est l'IA. Est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas ?
Cette question de peur, elle va avec une méconnaissance de l'objet intelligence artificielle. Donc, elle est poussée à l'extrême par exemple, Sam Altman, OpenAI, qui dit sur son site, très transhumaniste, « Demain, la machine va être supérieure à l'humain. Comment vous voulez pas avoir peur de ça ?» Mais Sam Altman vous fait un récit marketing. Il n'a aucune vision de cela. Et si je me réfère à mon expérience et aux experts que je connais, terrain, même Yann Lequin dit ça, on va plafonner. L'IA générative qui englobe plein de données, elle ne fait juste que de prendre des contextes, des mots dans les phrases. C'est tout. Ça s'est fondé sur une théorie qui vient d'un linguiste de 1957 qui est qu'un mot est proche d'un autre s'il partage les mêmes voisins, les mêmes mots voisins, vous voyez ? C'est ça qui est l'intelligence de ce système. Mais pousser avec des milliards et des milliards de données, avec cette puissance de modélisation à travers des réseaux de neurones, fait qu'on est capable de produire des choses qui sont quasi humaines. D'où notre peur, parce que le langage est quand même le langage qu'on utilise pour partager l'intelligence, pour raisonner, pour partager les connaissances. Et donc, si on génère demain que des choses comme ça qui sortent d'un ChatGPT qui rebat les connaissances, parce que c'est un puzzle, hein, il vous fait à peu près tout ce qu'il veut. De temps en temps, c'est hallucinant. De temps en temps, c'est juste proche de ce que vous pensez. Et on ne va pas faire attention. Et ça peut nourrir d'autres générations de ChatGPT. Je pense qu'il est temps que l'Europe prenne en compte cela et ses propres modèles de fondation par secteur. Pourquoi faire une machine qui ne sera jamais l'IA générale ? Ça ne sera jamais humain. L'acuité de la machine, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, est très différente de nous. Ça n'apprend pas comme un enfant. Absolument pas. Il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de ressenti. Donc on est devant une machine qui est livresque. Elle apprend à partir de données numériques. C'est pour ça que je mettais un slide.
Il y a une photo avec un jeu. AlphaGo.
Le jeu de Go et à côté une pomme. Parce que, voilà. La machine est très forte pour faire des calculs et pour avoir une mémoire d'éléphant, mais elle ne connaîtra jamais le goût de la pomme. Donc, il y a toute une partie de notre environnement 3D qui est totalement non compris dans ce que produit cette machine. Donc, elle ne comprend pas d'abord tout ce qui est de type spatial. Hein. On peut mettre une grosse boîte dans une petite boîte. Elle peut vous demander de sauter par la fenêtre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de connaissance du tout de l'environnement, pas de morale. Et puis, il n'y a pas non plus d'historique. Il n'y a pas des choses qui s'enchaînent. Donc, on est devant un objet qui paraît avoir des capacités qu'il faut utiliser certainement, mais avec un certain doigté. Et ça, il faut l'apprendre.
Je disais, en fait, quand j'ai commencé à... Une petite histoire personnelle, Christophe. Hein, j'ai commencé à utiliser ChatGPT. Et puis donc je mettais les formes, je lui disais merci, s'il te plaît, grosso modo en fait...
Non, c'est pas une personne. Hein.
Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas comme ça. Et finalement donc j'ai arrêté de faire ça, et puis finalement je me posais quand même la question, mais je m'adresse à qui exactement ? C'est plutôt homme, femme, noir, blanc, c'est quoi en fait derrière tout ça ?
Mais ce n'est pas une personne. Ce sont un ensemble de textes émis par des personnes avec... soit des textes qui sont vérifiés, soit d'autres qui ne sont pas vérifiés. Et qui a choisi ces textes ? C'est le géant qui a construit son modèle. Donc, il y a là, il y a des paramètres, par exemple, de température, ce qu'on appelle la température dans ce système. C'est le fait de ne pas produire le mot le plus probable après, mais parmi les 10% de mots les plus probables. Ce qui fait que vous parlez deux fois à la machine, vous avez deux fois deux réponses différentes, comme le feraient des humains. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est un paramètre de hasard qui est rajouté. Donc, on n'a pas besoin de tout comprendre dans ces systèmes, il faut quand même débusquer tout un tas d'hyperparamètres qui permettent de les construire avec agilité. Et la censure qui est au-dessus, parce que ChatGPT, c'est ce gros modèle de langage qui est très utile parce qu'on peut le réentraîner, mais qui est probablement à 80% en anglais hein, dans ChatGPT. Donc ça veut dire qu'on peut se questionner de l'influence culturelle de ça, des opinions. Et au-dessus, on a un apprentissage supervisé. Par pareil, des gens du CLIC, c'est-à-dire des gens sous-payés. On avait parlé d'Africains qui avaient été recrutés pour faire ça en Afrique ou en Inde, je ne sais pas. En tout cas, il faut faire attention. Derrière, il y a eu des consignes pour dire, voilà, on voudrait avoir ça en entrée, ça en sortie. Et des censures sur tout ce qui paraît un peu dangereux. Donc la machine va dire, non, je ne peux pas parler de ça parce que ce n'est pas éthique. Mais attendez, c'est parce que quelqu'un l'a décidé. Et l'a décidé tout seul. Ça s'appelle de la censure, hein. Ça ne s'appelle pas de l'éthique. L'éthique, ça serait que... un comité indépendant de la société puisse dire, voilà, attention, il y a certains sujets ou qu'il y ait des lois ou qu'il y ait des normes qui disent, attention, on ne va pas parler de ça parce que c'est à haut risque.
Et à travers notamment votre fondation Blaise Pascal, vous militez aussi, vous avez écrit dernièrement encore une tribune sur la place de la femme dans le numérique. Grosso modo, en fait, derrière mon histoire de ChatGPT qui est ni un humain ni quoi que ce soit, il y a quand même beaucoup d'hommes et peut-être plus d'hommes que de femmes.
Il y a plus d'hommes que de femmes qui ont mis des traces sur Internet, donc vous avez raison, il y a plus de... Alors, on le nie totalement, en général, tout ça, parce que ça serait assez simple, par exemple, de transformer tout ce qu'un homme dit en ce qu'une femme dit. Hein, pour avoir la féminisation de la moitié du corpus. Donc, pour avoir aussi des références féminines. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ces discriminations, ces biais qu'on va retrouver dans les machines. Donc, les machines ne disent pas forcément la vérité. Elles ont des biais, comme vous dites, de genre, ou de race, ou de différents contextes. Et l'humain, lui aussi, fait des erreurs. Et donc, ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est comment je coopère et comment je ne fais pas forcément confiance qu'à la machine. J'ai un bon exemple qui est en santé, en fait. Les spécialistes radio travaillant sur le cancer du sein, par exemple, j'en avais rencontré un à Paris qui avait 30 ans de cohorte de jeunes femmes qui étaient passées, qui avaient été malades, pas malades, etc. Et il disait, en fait, moi, ce système automatique me rend énormément de service parce que je comprends quand la précision va dans un sens ou dans l'autre. Je m'interroge, mais je suis capable de challenger. Et il disait, en fait, ce qui est problématique, ce sont les jeunes qui sortent de médecine, qui n'ont pas ce background que j'ai, c'est-à-dire cette expérience de long terme, terrain, et qui arrivent et qui sont assez démunis. C'est-à-dire que quand la machine propose quelque chose, ils ont du mal à dire non. Ce qui veut dire, dans ce métier-là, beaucoup de faux positifs, donc on décèle quelqu'un qui serait susceptible d'avoir un cancer. Donc déjà, il y a beaucoup de stress pour les humains. Puis derrière, il y a beaucoup d'argent de dépenser aussi pour faire des biopsies, pour vérifier ce qu'il en est. Donc ça veut dire que, d'une façon générale sur la société, il faut qu'on trouve des équilibres qui soient faits correctement avec ces comités qui vont venir aider. Et en tout cas, il faut que, personnellement, tous ces ingénieurs qui travaillent et les futurs médecins qui vont utiliser ces outils soient, quelque part, éduqués à l'utilisation des systèmes. Je pense que par vertical, c'est-à-dire par métier différent, il faut capitaliser, mutualiser les bonnes stratégies pour utiliser tous ces outils et en faire participer à peu près tout le monde, qui les utilise, qui vont donner les erreurs qu'ils ont vues du système. Et tout ça va améliorer les systèmes petit à petit, avec notre vision, nous, d'humains, et pas juste parce que 40 personnes ont décidé de le faire, payé par une boîte.
Je vais juste rebondir pour donner un exemple qui correspond au métier de nos auditeurs. Moi, j'ai commencé dans les métiers de la cartographie numérique il y a plus de 30 ans. J'ai commencé par en travaillant sur un projet qui était de la... On appelle de la télédétection, c'est-à-dire de la reconnaissance de cultures ou de végétation à la surface de la Terre à partir d'images satellites de l'époque. À l'époque, on faisait ça avec des traitements statistiques sur les images, qui n'étaient pas de l'intelligence artificielle, qui étaient de la statistique pure, sur les radiométries des pixels des images, et essayer de reconnaître ça. On fait toujours la même chose aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, on a des satellites qui sont beaucoup plus puissants, avec des pixels beaucoup plus petits, donc beaucoup plus de data, et on le fait avec des algorithmes qui permettent de tirer parti de puissance de calcul qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 30 ans. Finalement, on arrive au même résultat. On utilise des algorithmes de deep learning qui sont différents des algorithmes statistiques d'il y a 30 ans.
Ils
sont plus performants.
Plus robustes au bruit, etc.
Ils tirent parti des capacités de calcul qui n'existaient pas il y a 30 ans, et ils sont capables de prendre en charge la quantité de données qui n'existaient pas il y a 30 ans, et on arrive à faire beaucoup plus vite et beaucoup mieux grâce à l'IA et grâce à tout ce qui permet de faire fonctionner l'IA, notamment les fermes de calcul. Finalement, on fait la même chose.
Oui, on fait la même chose. Il n'y a pas temps de disruption, en fait.
Voilà. Non, il y a pas de temps. Dans ce métier-là, il n'y a pas de disruption.
Mais c'est même juste... dans beaucoup de métiers, en fait, c'est des choses qu'on n'utilisait pas, mais dans vos métiers, vous l'utilisiez déjà. C'est un continuum vers quelque chose de plus performant, avec une puissance de frappe plus importante. Et pour autant, il faut considérer que la machine peut se tromper. Donc, il faut être habile dans l'utilisation.
Ça, il faut savoir... qualifier les erreurs produites par le calcul qu'on reçoit. C'est la base.
Il y a beaucoup de... En préparant cette émission, on se demandait, en fait, il y a de la défiance peut-être par rapport à l'IA, en fait, qui vient de l'extérieur. Et on se disait, mais on a besoin de capitaliser, en fait, sur toute notre richesse et toutes les données que l'on a. On a besoin de les faire travailler. Christophe vient d'en parler, vous venez d'en parler. Et on vous demandait, mais si jamais on avait à créer un modèle interne à l'entreprise... Quelle serait la bonne manière de procéder pour pouvoir donc développer et enrichir son propre modèle, ses propres algorithmes à l'intérieur de l'entreprise?
Si vous avez beaucoup de données, on a maintenant en open source tout un tas d'outils qui sont faits soit par des géants du numérique, soit par des académiques. Vous pouvez trouver des outils en libre qui ont autant de performance à l'heure actuelle. Donc il faut le refaire avec vos données que vous... connaissez, qui sont étiquetés par vos soins, avec l'idée d'en faire quelque chose de précis, de le valoriser et de continuer. C'est vraiment... Il faut y aller, quoi. Il ne faut pas y aller forcément avec un cœur de LLM existant et proposé par une société X, Y ou Z. Je pense qu'on a toutes les capacités de le faire tourner. On a des grands centres de calcul maintenant en Europe, donc il n'y a pas de Il n'y a rien qui nous empêche de le faire, si ce n'est de se dire que le voisin a déjà un système qui pourrait marcher mieux maintenant. Mmh. Mmh. Bon, mais ça, je pense qu'à long terme, c'est une erreur. Je l'avais dit pour le HDH, pour le système pour la santé. Hein, on a des données qui sont d'une qualité rare, que personne n'a. Donc, il est essentiel de pouvoir le développer sur des outils qu'on va maîtriser mieux. Et je pense que c'est la même chose pour tout ce qui est... Alors après, on est sur des données mondiales aussi. Nous sommes sur des données mondiales dans votre projet. Donc, il faut pouvoir travailler en commun, en respectant les droits de chacun. Quoi.
Il y a quelqu'un qui pose une question qui est un peu abyssale. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer, valider, qualifier, rendre normées les données d'apprentissage de ChatGPT ou d'un LLM comme ça ? C'est-à-dire que c'est tellement vaste, on va dépasser la capacité même de...
Moi, je pense que la normalisation qui est « je veux mesurer, je veux vérifier », il y a des humains dans la boucle qui vont aller vérifier, est déjà pas mal. Si je rends les mesures trop précises... Mm-hmm. sur certaines tâches, je risque, un, d'être dépassé, de ne pas avoir tout vu, et donc ça sera inexact. Donc, il faut faire attention à trop de normalisation également. Mmh. Hein. Moi, je ne suis pas pour que tout soit mesuré à la lettre sur tout. Mmh. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas brider l'innovation, justement, là aussi. Donc, il faut garder une attitude de liberté dans ce qu'on est en train de faire, tout en ayant conscience qu'il faut pouvoir lever un peu ce capot avec des audits, avec des vérifications d'un certain nombre de personnes qui seront à même d'aller voir le secret professionnel dans des entreprises et qui soient je sais pas, des éthiciens, enfin, un nouveau métier.
Il y a un nouveau métier, oui.
Un nouveau métier important.
Par sondage, échantillonnage, peut-être, ou des choses comme ça.
On peut imaginer plein de choses, je crois qu'il faut créer ça.
Ouais. Donc dans cette accélération, on va dire, du rythme autour de l'intelligence artificielle dont on parle là, beaucoup, certains demandaient en fait une pause de temps en temps, instaurer ce rythme-là.
Mais qui le demandait hein?
Ah oui, alors ça c'est...
Là, c'était inique, là. Parce qu'on a Elon Musk qui nous demande de faire une pause, alors que lui, justement, a pris un peu de retard, parce qu'il a quitté OpenAI, et qu'il recrée en parallèle un autre système d'IA, enfin, une autre boîte qui va travailler sur l'IA. Donc, on est là devant une position qui est...
Mais pour autant, il faut s'arrêter de temps en temps, puis rentrer et mettre la tête sous le capot.
Non, il ne faut pas s'arrêter. Je pense qu'il faut continuer en ayant comme ambition... De monter des choses nouvelles, de créer des choses nouvelles, avec un code éthique pour concevoir, avec une cartographie des risques qu'on a dans les différents objets qu'on manipule, et le faire. Alors, il y a une demande au départ qui est sûrement un peu importante, mais il faut l'étaler. Je pense qu'il faut prendre le train maintenant en se disant que c'est possible d'avoir des propres outils et de pérenniser des choses et d'avoir un profit dans quelques temps. Je pense que ce qui manque à l'heure actuelle dans les gouvernements, c'est une vision à long terme. Mmh. Or, ces objets-là, ils sont là pour un moment. Hein. Mmh. Donc l'IA, on n'a pas fini d'en parler. Mmh. Donc il serait quand même temps de dire qu'on n'a pas peur, qu'on va le faire, avec certaines précautions, en essayant de faire au mieux, tout en regardant quelles erreurs ça génère. Il
faut dire que avec l'arrivée de ChatGPT, je ne sais plus combien, 3 ou... 3.5, il y a un peu moins d'un an.
4 maintenant.
Et même pas un an, en fait. Hein. Ça surgit comme objet novembre, médiatique. Voilà, c'est ça. L'IA est apparue...
Dans les mains de tout le monde.
Dans les mains de tout le monde. Elle a été accessible. Tout le monde a testé sur son téléphone et a vu ce que c'était. Et après, la réaction... Et donc, c'est déjà une sidération collective. Et la réaction, notamment, et même de Sam Altman, il me semble,
qui a dit aussi
qu'il faut faire une pause.
C'est un énorme danger. Le gars, il sort régulé, un truc énorme. C'est facile, moi j'ai tout et vous n'avez rien. Donc
il sort un truc énorme et il dit, attention, ce que j'ai fait, c'est génial, mais on arrête tout parce que c'est dangereux. Quoi.
Non, il a fait quelque chose qui était assez inadmissible en tant que responsabilité. Bon, après, c'est l'Amérique qui est avant tout sur le profit avant tout. Il a pris, en fait, en étau tout le monde. C'est-à-dire qu'il a essayé de gruger les Google, etc. Donc, tout le monde avait ces sujets. Hein. Ils ne sont pas nouveaux pour nous. À partir de 2017, on utilise des transformeurs dans les labos et les grands groupes l'utilisent à fond et vont dans ce domaine-là. Mais tout le monde disait, avec GPT-2, c'est trop dangereux. On ne va pas le mettre dans les mains de tout le monde. Google faisait la même chose. Il y avait justement des gens à l'intérieur qui avaient dit là, le système a une conscience. Et tout de suite, ils ont été mis sur le côté. Il y a eu des débats dans la presse. Donc tout le monde avait conscience que ça allait être dangereux, ça. Et d'un seul coup, ça m'a mal levé comme ça, à disposition de tout le monde. C'est vraiment de l'irresponsabilité totale, surtout quand on le voit qui fait le tour de tous les gouvernements pour dire regardez, je suis éthique, normalisons. C'est effrayant. Hein. Et effectivement, ces outils d'IA, ils ont eu un fort pouvoir de manipulation de l'information. Hein. La Terre est plate pour beaucoup d'entre nous. Jusqu'où on va aller pour nier en fait la véracité des termes. Là, il n'y a pas de ressources derrière qui prouvent que ça a un sens. C'est juste nous qui avons à juger de la pertinence du résultat. Hein.
Mais finalement, alors je comprends plus. Là, vous nous dites, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû ouvrir la boîte de Pandore ?
Non, pas comme ça. Il aurait dû le faire en disant, voilà les précautions.
Ouais.
En fait, ce système, il a été lancé auprès de tout le monde. Alors, il y a eu des gens qui étaient hallucinés par le niveau, parce qu'ils n'avaient pas anticipé ce niveau de production. Il y avait très peu de gens qui étaient capables de faire tourner ce genre de machine. On avait en France Bloom, par exemple, le projet Bloom, France et Europe, qui était de faire sur Jancel, calculateur qui est à Saclay, de faire des systèmes comme cela pour les ouvrir, pour comprendre en open science quels étaient les rouages derrière, d'accord ? Bon ben tout ça a été fait. Quels sont les industriels qui l'ont utilisé ? J'en connais quelques-uns qui l'ont utilisé, mais c'est vrai que ce truc qui arrivait comme ça très opaque a nié tout ça. Il s'est arrivé sans explication. Regardez GPT-4 qui arrive derrière. Il a 8 LLM à l'intérieur. Ça marche comment ? Qui nous a ouvert cela ? C'est sidérant, en fait. On a tâtonné, il y a très peu d'informations qui ont été disponibles. La seule information, c'est qu'ils étaient éthiques parce qu'il y avait des censures sur tout un tas de sujets qu'il ne fallait pas aborder. Bon. Et derrière, nous sommes une civilisation qui n'a pas l'habitude de ces outils et qui n'est pas agile. Alors, le monde asiatique a moins peur que nous pour tous ces outils. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux traités non plus d'un point de vue société. Hein. Je crois que nous, on a cette entraide sociale qui n'existe pas partout. Est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas ? Je pense que oui. Et par contre, avec ces systèmes, on doit comprendre comment on va les utiliser au mieux et très vite. Et ce très vite, avec beaucoup d'argent, je ne le vois pas discuter au plus haut niveau. L'Europe essaie, mais la disparité des différents pays fait qu'on n'a pas de force militaire ensemble, on n'a pas de force économique ensemble. C'est ça qu'il faut créer très vite, parce que sinon, l'Europe va rester derrière. Et ça ne sera pas à cause de la régulation.
Il y a encore des dernières questions, parce qu'on approche de la fin de notre échange. Progressivement, on parlait, hein, et vous l'exprimez parfaitement bien, de bombes nucléaires qui avaient été lancées comme ça en début d'année. Et donc, il aurait fallu sans doute la freiner. Maintenant, en fait, maintenant que c'est trop tard, finalement, il faut prendre les réactions donc le plus rapidement possible pour atténuer l'impact et accompagner l'impact. C'est ça.
Il faut accompagner l'impact, comprendre en quoi c'est utile et faire que l'industrie, en tout cas européenne, ne s'engouffre pas dans l'utilisation de ces objets parce que ce sont des objets marketing. Hein. On vous donne ChatGPT 3.5 et on vous dit achetez le suivant. Donc il faut faire attention à cette prise de dépendance par rapport à ces objets que pourrait avoir l'industrie et puis aussi où vont vos données. Donc, on a besoin d'avoir des garde-fous sur les droits d'auteur, les données.
Pour poser une bonne question à un outil comme ça, il faut lui donner beaucoup d'informations sur ce qu'on veut, et donc sur nous-mêmes.
Oui.
Et donc, cette information, après ça, va enrichir le corpus de l'autre.
Oui, puis elle va partir ailleurs.
Oui, elle va partir ailleurs. Elle a de la valeur.
En tout cas, ça fait beaucoup réfléchir, ça nous a fait pas mal réfléchir. Il y a des va-et-vient, en fait, hein, dans l'échange qu'on a eu, et puis beaucoup, en fait, qui continuent à y penser. Oui, dites-nous le mot de la fin.
Pour finir, il faut quand même être très positif. Parler d'éthique, c'est monter un petit peu de façon plus raisonnable sur ces sujets, donc il faut arrêter la peur ou l'extase, hein. Arrêtons les extrêmes, essayons de nous être au milieu avec bon sens, et puis de comprendre les impacts, et d'aider l'éducation, et de faire du profit avec ces systèmes en étant cohérent avec les droits sociaux, un certain nombre de nos valeurs en Europe, qui sont extrêmement finalement enviée, hein. Enviée en Asie et enviée aux États-Unis.
Finalement, ça va résonner un petit peu différemment dans les ateliers et les communications qui ont lieu encore jusqu'à demain soir
sur
des sujets IA. Je pense que les gens vont y réfléchir. Merci beaucoup, Laurence De Villers, d'être venue.
Merci à vous.
Merci, Christophe, et merci à vous tous d'avoir participé avec nous cet échange. Et donc, bon après-midi, bon atelier, bonne communication. Au revoir, à bientôt.